9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Fabien Archambault.
Bonjour.
Vous enseignez l'histoire contemporaine à la Sorbonne et vous publiez Coup de sifflet, une histoire du monde en 11 matchs chez Flammarion. Le football, d'après vous, nous plonge au cœur de l'histoire mondiale. C'est ce qui explique son immense popularité. Alors justement, la Coupe du Monde commence dimanche prochain au Qatar. C'est la première organisée par un pays arabe. Certains trouvent ça très exotique, alors qu'il y a des footballeurs d'origine arabe dans les clubs européens depuis toujours. Avant Benzema, en France, il y avait Zidane. Avant Zidane, il y avait Rachid Mekloufli qui jouait à Saint-Étienne et dans l'équipe de France.
Il faut replacer ça dans des stratégies d'expansion du football de la FIFA. La FIFA, en fait, depuis que João Havelange, le Brésilien, a été élu à sa tête en 1974, porte un projet de conquête de nouveaux marchés. C'est-à-dire que c'est le premier sport mondial, le football, mais il faut le rester. Donc ça a été en 1994 l'Amérique du Nord avec la Coupe du Monde aux États-Unis. En 2002, au Japon, Corée du Sud, donc l'Asie. En 2010, l'Afrique du Sud, donc l'Afrique noire. Et à un moment donné, il fallait un pays musulman ou un pays arabe, enfin le Moyen-Orient. Et donc là, il n'y avait pas 36 solutions possibles. C'est-à-dire qu'ils auraient pu penser à l'Iran, qui est un grand pays de football, mais c'était très compliqué géopolitiquement. Il y avait l'Égypte, le Liban, le Maroc, mais là, il y avait des problèmes de construction d'infrastructures de stades. Est-ce que c'était des pays qui pouvaient construire les infrastructures aux normes internationales que demande la FIFA? Et donc, l'habileté du Qatar, ça a été de se proposer en disant, nous, on a les moyens et on peut vous organiser une Coupe du Monde au Moyen-Orient. Et c'est ce qui va se passer, mais ça s'inscrit dans la longue durée. Et ensuite, il y en aura d'autres. Il y aura la Chine un jour, il y aura l'Inde à un autre moment. Parce que l'objectif de la FIFA, c'est toujours de diffuser son sport le plus possible dans des espaces qui, jusqu'ici, n'étaient pas à l'honneur.
Mais la Coupe du Monde de 1930 en Uruguay, que vous racontez également dans votre livre, ça aussi c'était exotique à l'époque. D'ailleurs, la plupart des équipes européennes, à part la France, n'avaient même pas fait le déplacement.
Oui, oui, tout à fait. Là, on a un peu en fait, le même... la même dynamique géopolitique d'un petit pays qui était l'Uruguay pour s'affirmer sur la scène internationale. Donc il y avait l'idée pour la FIFA d'organiser une Coupe du Monde, enfin en tout cas un championnat du monde qui ne devait pas forcément prendre la forme d'une Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il y avait à l'époque en Europe déjà une compétition internationale qu'on appelait la Coupe internationale qui s'organisait sur plusieurs années par match aller-retour et qui concernait l'Autriche, la Hongrie, l'Italie, en gros des pays qui étaient déjà passés au professionnalisme. Et les Européens auraient voulu continuer de cette manière-là puisque pour eux, le football, c'était d'abord une affaire européenne. L'Uruguay arrive à convaincre que le format d'une compétition qui soit ramassée en 15 jours sur le modèle des Jeux Olympiques, donc unité de temps, unité de lieu, était la formule qui était la plus idoine pour avoir une compétition spectaculaire. Et donc, à partir de là, l'Uruguay obtient l'organisation de cette première Coupe du Monde et les Européens, forcément, ne se déplacent pas. C'est-à-dire les Européens, les grands championnats européens, c'est-à-dire l'Angleterre. Et donc, l'Uruguay était prêt à faire un pont d'or à la Fédération anglaise pour qu'elle se déplace. Elle n'a pas voulu. Même chose pour l'Autriche, la Hongrie, l'Italie. Et en fait, viennent seulement des équipes de second ordre. Alors, il y a la Belgique. Alors, la Belgique, ça s'explique parce que un des dirigeants de la FIFA, qui est l'ambassadeur d'Uruguay en Belgique et aux Pays-Bas, a de bonnes relations avec le roi des Belges. Donc il arrive à le convaincre qu'il faut envoyer son équipe. Il y a Jules Rimet, qui est président de la FIFA, qui est français, donc qui supplie les clubs français de libérer les internationaux pour qu'ils aillent en Uruguay. Et ensuite, il y a deux petits pays, footballistiquement parlant, mais pas seulement, sont la Roumanie et la Yougoslavie. Et eux, c'est plutôt c'est des États neufs qui sont nés de la décomposition de l'Empire d'Autriche-Hongrie après la Première Guerre mondiale. Et donc, pour eux, il s'agit d'exister sur la scène internationale. Donc, en fait, on se retrouve avec quatre équipes européennes qui sont vraiment pas les meilleures. Les Sud-Américains sont très déçus parce que ce qu'ils voulaient, c'était se confronter aux meilleures équipes européennes pour prouver que justement ils pouvaient les battre.
Mais justement, Fabien Archambault, pourquoi est-ce que l'Amérique du Sud a-t-elle aimé à ce point le football, au point rapidement de rivaliser avec les Européens et même de les dominer nettement, comme ce sera le cas du Brésil et de l'Argentine pendant la deuxième moitié du XXe siècle?
Ça, en fait, alors c'est quelque chose qu'on a oublié, c'est que l'Empire britannique, Il y avait un aspect d'empire formel, c'est-à-dire des possessions militaires, on va dire, mais il y avait aussi tout un empire informel qui concernait toute l'Amérique latine, c'est-à-dire qu'en gros, les Anglais étaient chez eux en Amérique latine. C'est eux qui fournissaient les capitaux pour moderniser et industrialiser les pays, et en échange, c'était des ingénieurs anglais qui installaient les chemins de fer, qui mettaient sur place le système bancaire, qui géraient les mines avec les ingénieurs, etc. Donc en fait, la zone d'Amérique du Sud, enfin les élites d'Amérique du Sud étaient tournées vers l'Angleterre. Leurs enfants allaient étudier en Angleterre. Donc ils ont appris le football dans les écoles anglaises. Ils étaient au contact d'Anglais, donc de toute cette classe moyenne anglaise liée à la seconde industrialisation qui était présente. Et ce qui s'est passé, c'est après la Première Guerre mondiale, il y a tout un mouvement de redéfinition des identités nationales en Amérique du Sud, parce qu'on a vu pendant la Première Guerre mondiale que les puissances européennes, qui jusqu'ici étaient considérées comme l'image même de la civilisation, s'étaient effondrées dans une boucherie sans nom. Et donc à ce moment-là, il faut refonder ces pays-là. Et on le fait en partie avec la culture dont on dispose, donc dans laquelle figure le football. Et il s'agira de créer un football qui soit différent, un football créole, où on jouera différemment au football en Amérique du Sud. Et du coup, on sera capable de montrer qu'on peut battre non pas l'ancien colonisateur, mais en tout cas l'ancienne puissance dominante de la zone.
Celui qui va le mieux symboliser ça, c'est Pelé. On fait une pause, Fabien Archambault, et on y revient tout de suite à Pelé et à l'exotisme du football sud-américain.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec l'historien Fabien Archambault qui publie « Coup de sifflet, une histoire du monde en 11 matchs » chez Flammarion. Pelé, qui fait son apparition en 1958 à 17 ans, le plus jeune joueur de l'équipe du Brésil qui remporte la Coupe du Monde de football. Il est encore là en 62 et en 70, les deux autres Coupes du Monde remportées par le Brésil. C'est à partir du triomphe de Pelé au Mexique devant 100 millions de téléspectateurs, il devient la première star mondiale du football, que s'inscrit dans les esprits que le roi du football est noir, forcément noir.
C'est pas une nouveauté, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu un meilleur joueur du monde qui était noir. Donc c'est par exemple l'équipe d'Uruguay qui gagne les Jeux Olympiques en 1924 et en 1928, donc en 24 à Paris, en 28 à Amsterdam, où il y avait son attaquant qui était Jorge Leandro Andrade, qu'on appelait la merveille noire, donc qui suscitait émerveillement, curiosité, c'est-à-dire des capacités athlétiques et techniques qu'on ne connaissait pas jusque-là. En 1938, sur la Coupe du Monde qui est organisée en France, il y a l'attaquant brésilien, lui aussi qui est noir, Leonidas. Donc tout ça, en fait, préparait le terrain à l'éclosion de cette vedette planétaire. Donc on se souvient surtout de Pelé parce que...
Parce qu'il y a la télé. Parce qu'il y a la télé.
Voilà, il y a la télé. Il y a aussi tout un moment culturel en France, par exemple le titre de roi du football, c'est Paris Match qui le décerne à Pelé après la Coupe du Monde 1958. C'est la bossa nova brésilienne, c'est le cinéma nuovo brésilien qui triomphe à Cannes. Et donc Pelé incarne un exotisme, et un exotisme qui est efficace, un exotisme qui gagne. Et ensuite, c'est ce que vous avez dit, cette exposition télévisuelle à la Coupe du Monde 1970 fait que ça devient l'idole du tiers-monde. C'est-à-dire, par exemple, Pelé est immensément populaire dans toute l'Afrique noire. C'est l'équivalent de Mohamed Ali. C'est la preuve qu'après les décolonisations, vient une nouvelle ère où les athlètes noirs seront enfin dominants.
Et à partir de là, en France, il y aura toujours des stars noires du football. Salif Keïta ou Marius Trezor, quand j'étais petit, ont précédé Lilian Thuram, Paul Pogba ou Kylian Mbappé.
C'est-à-dire que les grands clubs européens cherchent le nouveau Pelé. C'est qu'on se dit qu'il y en aura d'autres. Et alors surtout, en plus, les anciennes puissances coloniales dans la zone africaine, c'est-à-dire l'Angleterre et la France, se disent qu'eux aussi, ils ont des filières de recrutement dans les pays qui étaient anciennement sous leur domination. Les Français se disent, nous, on va essayer d'aller voir dans nos anciennes colonies si on ne peut pas dégoter les futures stars du ballon rond.
Comment expliquez-vous, Fabien Archambault, que la France, qui était qui n'a guère fait d'étincelles à l'international, on va le dire, hein, comme ça tout au long du XXe siècle, hormis une place de troisième dans cette fameuse Coupe du Monde en Suède en 1958 et un titre de championne d'Europe en 1982. Comment expliquez-vous que la France se réveille enfin en 1998 en remportant la Coupe du Monde une première fois? Alors bon, on est chez nous à ce moment-là, ça aide. Elle a failli quand même remettre ça 8 ans plus tard, en 2006. Et puis elle a remporté une deuxième Coupe du Monde en 2018. C'est la France championne du monde qui va défendre son titre au Qatar la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour opérer une telle métamorphose?
Alors, moi, je dirais qu'il y a des raisons de moyen terme et des raisons plus conjoncturelles. Alors, de moyen terme, hein, c'est ce que vous avez décrit, c'est que le football français est, à l'échelle européenne, un nain footballistique, notamment pour tout ce qui concerne le football de club. Alors, ça tient au fait qu'il y a très peu d'investissements industriels. Enfin, il y en a, mais qui sont pas du tout du niveau de ce qui se passe en Espagne, en Italie, en Angleterre. Alors, ça tient en partie, je pense, au fait que, bah, justement, l'équipe de France n'a jamais gagné une grande compétition. Donc, en gros, c'est un cercle vicieux qui s'installe. C'est-à-dire qu'en gros, les élites économiques, les élites politiques ne voient pas dans le football un moyen de magnifier la nation, d'assurer le prestige national. Alors, ce qui se passe, c'est, au début des années 70, Philippe Séguin, qui est au Conseil d'État et qui met en place, en gros, un système de formation, enfin, c'est ce qui donnera les sports-études, et qui, en gros, permet de suppléer des clubs qui sont déficients de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en gros, le système scolaire français va aider à repérer, à former le plus de bons joueurs possible, d'où pourrait émerger une élite. L'élément plus conjoncturel, c'est l'arrêt Bosman en 1996, donc qui a un peu anticipé avec la chute de l'Olympique de Marseille pour corruption, où en gros les meilleurs joueurs français sont achetés par, à l'époque, les clubs les plus riches, qui sont les clubs italiens, où ils se confrontent c'est de la Serie A italienne dans les années 90, est le meilleur championnat du monde, et ils progressent tout simplement. Donc de ce point de vue-là, hein, avant le quart de finale contre l'Italie en 1998 à la Coupe du Monde, le Corriere dello Sport, qui est un des trois quotidiens sportifs italiens, avait titré en une « Nous avons créé des monstres ». C'est-à-dire qu'il s'était rendu compte que là, par exemple, les défenseurs, Thuram, De Sailly, Blanc, qui avait joué à Naples, c'était les meilleurs du monde, et ils l'ont prouvé avec un style de jeu qui était très italien, finalement, c'est-à-dire des équipes très disciplinées, qui défendent bien, qui savent attaquer au bon moment. Et c'est un peu ce qui s'est reproduit en 2018. Hein. Deschamps est passé à la Juventus. C'est le meilleur entraîneur italien du moment, Didier Deschamps.
Et c'est drôle parce que c'est seulement pour l'équipe de France, ça. Parce qu'en club, notre palmarès est toujours aussi famélique, hein, dites-vous. 2 titres européens seulement. On est loin derrière l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, la Hollande. On est loin derrière le Portugal ou même la Belgique. On est au niveau de la Roumanie et de l'Écosse.
Oui, tout à fait. Disons que il faut de l'argent pour réussir dans le football de haut niveau, mais aussi il faut une tradition d'excellence. C'est que c'est très compliqué de gagner une Coupe d'Europe. Et finalement, en France, ça fait une dizaine d'années seulement qu'il y a un club qui peut rivaliser financièrement avec les autres grandes puissances footballistiques du continent. Et ça prend du temps. C'est-à-dire que même les plus grands clubs européens, prenons l'Inter de Milan, qui avait investi avec le pétrolier Moratti dans les années 90 des milliards de lire, il a attendu 20 ans avant de gagner la Ligue des Champions. Donc ça arrivera peut-être en France, mais après, ce qui compte, c'est que au-delà du Paris Saint-Germain, il y a des clubs qui sont des clubs moyens européens sans en plus compétences particulières pour briller au niveau international.
Merci Fabien Archambault. Coup de sifflet, une histoire du monde en 11 matchs, c'est paru chez Flammarion. Et la suite, c'est à partir de la semaine prochaine. Ça se passe au Qatar avec une nouvelle Coupe du Monde.